Les bringueuses.
Moi, je peux comprendre que certaines femmes aient envie de passer des moments qu'entre elles, parce que ça arrive plutôt régulièrement qu'on sorte avec des amis et qu'on se fasse embêter par la gente masculine.
Bonjour à toutes et à tous. Plus qu'un plaisir intense, c'est une délivrance de vous retrouver après ces deux mois de congé. Congé sans solde, je le rappelle à tous les pisse-vinaigres qui venaient me déranger sur mon transat cet été pour me dire « Bah dis donc, on s'emmerde pas avec nos impôts en plage privée à Saint-Tropez pendant deux mois ». Non, messieurs, ce n'est pas avec vos impôts que j'ai glandé deux mois sur la Côte d'Azur, mais avec mes modestes économies, raison pour laquelle je n'étais même pas en première ligne sur cette plage. Mais je ne vais pas m'apesantir sur le caractère un peu low cost de mes vacances. J'ai conscience que tout le monde n'a pas la chance de s'arrêter deux mois et de s'offrir le soleil. La preuve, même au sein de l'équipe de Zoom Zoom, je sais que certains ont été contraints d'aller en Bretagne.
Mais quel enfer!
Ne les jugeons pas, Manon. C'est beau, la Bretagne. Il faut une combi néoprène pour se baigner, mais c'est beau. Notre rédacteur en chef, lui, n'était évidemment pas en Bretagne, puisque Cyril Lacarrière a fait parler de lui cet été au Cap d'Agde. Il était dans le public, oui, lors de cette fameuse soirée où Patrick Sébastien, le parrain de ses enfants, animait une fellation en plein concert. C'est même lui qui a filmé à l'iPhone la scène avant d'envoyer par réflexe les images à BFM TV, car même au cœur de l'été, le journaliste persiste sous l'échangiste. Une scène profondément choquante pour le maire du Cap d'Agde, une soirée d'anthologie selon Cyril, qui souhaitait d'ailleurs que pour cette première de la saison, on accueille son ami Patrick Sébastien afin qu'il puisse s'expliquer et livrer sa version des faits. Quoique séduit par l'idée, j'ai choisi de mettre mon veto car une autre idée m'était venue en voyant Patoche mimer l'acte d'amour buccal devant un parterre familial. Et si on zoomait plutôt sur les bringueuses? Ces femmes qui justement en ont marre des hommes et de leurs regards parfois salaces et qui ont donc décidé d'organiser des soirées sans hommes.
Mais quel enfer!
Alors non, à nouveau, Manon n'est pas là pour analyser, ni pour juger, à part Cyril qui ne peut pas s'en empêcher évidemment. C'est donc l'esprit ouvert que nous allons nous pencher sur ces bringueuses. À quoi ressemble une fête non mixte? En quoi cette safe place permet aux femmes de mieux profiter de la nuit? Qui retrouve-t-on dans ces soirées? Pas la Marianoche, vous l'aurez compris. Zoom Zoom Zen, c'est reparti pour une quatrième saison.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Lauriane Bema et Edith Marouet-Jules, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter. Lauriane, vous êtes directrice et gérante du collectif La Bringue, un groupe composé exclusivement de femmes qui organise donc des soirées pour les femmes, que pour les femmes. Vous allez tout nous expliquer dans le détail, on va être dans le concret. Et dites-vous, vous êtes sociologue et géographe du genre, fondatrice du bureau d'études La Robe, atelier recherche et observatoire de l'égalité. Vos travaux portent sur la place des hommes et des femmes dans l'espace public et notamment dans les lieux de loisirs. Vous allez donc croiser vos regards sur ce phénomène des bringueuses. Juste le temps de vous présenter deux sacrés bringueurs, mais plutôt partisans de la mixité. D'après ce que j'ai pu voir sur Instagram, ils ont passé un été merveilleux, l'une au Mexique, l'autre en Grèce, même si c'était un séjour de courte durée. On y reviendra plus tard, forcément, vu que moi je n'ai pas bougé de France, j'étais un peu jaloux, mais je suis très heureux de les retrouver. Manon Mariani, Quentin, lui, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour.
Et bonjour à tous.
Bonjour tout le monde.
On va d'abord s'arrêter sur ce miracle, la présence parmi nous, saine et sauve, enfin, en tout cas sauve, de Manon. En effet, comme je l'avais prédit, comme le site d'information aux voyageurs du ministère des Affaires étrangères qui place le Mexique dans la liste des pays dangereux l'avait prédit aussi, Manon a été kidnappée le 10 août dernier.
Ça va,
alors qu'elle assistait à un combat de catch dans la banlieue de Mexico. Alors, que faisait-elle à un combat de catch? C'est une autre question que
c'était
nous n'aurons pas le temps de disséquer aujourd'hui. Une chose est sûre, elle n'a pas assisté au troisième round entre les deux moustachus en slip qui s'opposaient sur le ring. Quand elle s'est réveillée, elle était bâillonnée à l'arrière d'un fourgon et c'est là que ses ravisseurs ont commis l'erreur, lui retirer son bâillon. Ils étaient trois durs à cuire, dont deux avec une larme tatouée sous l'œil. Et pourtant, lorsque Manon a ouvert la bouche, laissant échapper les relents de deux semaines d'happy hour au mescal, ils se sont évanouis comme Étienne Bertin après son deuxième lait-fraise à la soirée France Inter de 2003. Surprise par ses super-pouvoirs, Manon a d'abord songé à faire une story en posant à côté de ses ravisseurs le pouce en l'air. Avec ça, c'est sûr, je vais franchir la barre des 10 000 followers. Heureusement, l'instinct de survie fut le plus fort que sa soif de notoriété et elle décida de sortir rapidement du fourgon.
Alors, Manon, c'était facile, hein.
Le Mexique,
vraiment.
Finalement, l'aventure fut de courte durée.
Il y a
eu de beaux souvenirs. Il y a eu une confrontation avec le monde animal assez intéressante.
Ah oui, il y avait des bêtes assez horribles, un serpent, un scorpion. C'est moi qui ai dû m'en débarrasser.
Vous les avez abattus sans
oui,
froid.
Oui, j'ai bu beaucoup de mescal, c'est très très bon.
C'est ça qui vous a aidé certainement à tuer des
scorpions. Ça ne donne pas la gueule de bois, voilà, sachez-le.
C'est
un petit tips comme
qu'est-ce
ça. Moi, je
sais
pas, j'étais toujours fraîche les lendemains.
Lui aussi, il a beaucoup bougé cet été, notamment ce road trip de 24 heures à Santorin. Mais personnellement, c'est sa carte postale Grosse Bise de la Ciotat, figurant cinq jeunes femmes de dos contemplant le port et très à leur avantage dans l'élégant monokini fluo qui m'a le plus touché. Comme vous le savez, j'aime le beau, il a tapé dans le mille avec cette carte postale raffinée.
Pas de réponse en revanche.
Non, mais ça, j'allais pas vous répondre non plus. On zoome zoom sur le phénomène des bringueuses. Lauriane, ces soirées qui sont 100% féminines que vous organisez, est-ce que c'est quoi ? C'est un passage obligé pour réinventer les soirées mixtes, les soirées hommes-femmes, ou c'est quelque chose qui est destiné à être pérenne ?
Je pense pas que ce soit un passage temporaire. Je pense que les soirées en non-mixité qu'on organise entre filles, c'est quelque chose qui va évoluer en parallèle des soirées en mixité. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose qui a pour but de s'arrêter.
Edith, quand vous avez découvert l'existence de ces soirées non mixtes, vous en avez pensé quoi ?
Alors déjà, la non mixité, c'est pas quelque chose, un état de fait à vie, quoi. On peut être en non mixité pour danser, on peut, voilà. Donc la question, elle se pose, où sont nos lieux de négociation et de conciliation ou de réconciliation ? Voilà.
Face à vous, mesdames, il est clairement la personne à convaincre autour de cette table. Déjà, naturellement, peu enclin à la modernité, Cyril Lacarrière nous revient d'un séjour vivifiant en Vendée, où il a, chez son ami Bruno Retailleau, redécouvert les vertus des choses simples, les balades en forêt avec un chandail Cyrillus sur les épaules, la messe et les parties de Molki avec Pierre-Édouard Sterrin. Bonjour Cyril.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
C'est peu ou prou ce que vous m'avez dit dans un message.
Vous oubliez des passages au Puy du Fou.
Ah oui, évidemment, très beau spectacle. Cyril, on reprend les bonnes habitudes, c'est à vous de nous le dire, les bringueuses, d'où ça sort ?
Imaginez un appart ou une boîte de nuit, de la musique à fond, des crop tops, parfois des femmes topless, ça rit, ça danse, ça boit, tout ça sans le regard des hommes et sans la peur des mains baladeuses. En fond sonore, vous l'entendez forcément, Beyoncé, Run the World, Girls, bienvenue dans une soirée de bringueuses. Ça, c'est celle d'aujourd'hui, mais les fêtes entre femmes, ça remonte à loin. Dans l'Antiquité, les bacchanales, c'était des fêtes religieuses. Était l'occasion pour les femmes de se retrouver entre elles. Alors là, ça a vite été réprimé. Je fais un saut dans le temps. Dans les années 70, les soirées féministes et lesbiennes réinventent le modèle. Elles lancent des fêtes pour s'amuser et danser, tout en se protégeant du regard et surtout du contrôle des hommes.
Et le mot bringueuse, alors, quand est-ce qu'il est apparu ?
Eh bien, à la fin du 19e, un dérivé de bringuer, faire la bringue, c'est aimer faire la fête, les bringueurs et donc les bringueuses. Mais dans le sens où on l'utilise cet après-midi et dans vos soirées, Lauriane Bema, c'est évidemment beaucoup plus récent. Le terme émerge vraiment entre 2010-2020, grâce notamment au collectif Barbiturix qui lance les soirées Wait for Me, des soirées lesbiennes et queer. Les réseaux sociaux accélèrent le phénomène. Sur TikTok, le hashtag Girls Night fait des millions de vues. On se partage les recommandations de lieux, des codes vestimentaires et bien sûr des playlists. En France, cette bringue, on la doit à une certaine Clarisse. Le Monde l'a raconté cet été. Clarisse propose sur Twitter à des filles de la rejoindre pour une fête. Elles finissent à 10 et c'est comme ça qu'en 2019 naît la bringue. Clarisse, c'est votre sœur Lauriane. Quant à la bringue, elle va s'exporter bien au-delà du périph' parisien. Tant pis pour les clichés. Alors d'où ça sort les bringueuses ? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. La bise à votre ami Pierre-Édouard. Lauriane, c'est donc vous qui organisez ces soirées 100% filles désormais. Et qu'est-ce qui a poussé à la base votre sœur à lancer ce mouvement ? Comment l'idée lui est venue ? J'imagine que vous en avez discuté.
Alors au début, elle l'a fait vraiment pour se faire des copines. Sortir avec des filles, aller en boîte avec des filles et se faire des nouvelles rencontres. Et c'est pendant ces soirées entre filles qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, ce serait trop bien d'avoir l'intégralité de la boîte de nuit réservée que pour les filles et pas juste une table. Donc c'est de là qu'est parti le concept de la bringue. C'est de là qu'est né le collectif. Et au fur et à mesure, on a eu plein de bringueuses du coup qui nous ont témoigné qu'en fait, elles n'osaient plus aller en soirée mixte parce que justement, il y avait trop de mains baladeuses, trop d'hommes dérangeants, etc., etc. Donc ce qui était au début une initiative assez égoïste, assez juste pour se faire des amis, c'est devenu un mouvement un peu féministe et militant.
Là, par exemple, vous avez organisé combien de soirées cet été ?
Cet été, on a fait une trentaine de soirées. Il faut savoir qu'on n'est pas que à Paris maintenant. Du coup, on est dans une vingtaine de villes en France et en Belgique aussi.
Et c'est quoi le profil type d'une bringueuse ?
Il n'y a pas vraiment de profil type. On a beaucoup d'étudiantes. Mais au fur et à mesure que la bringue se répand, on voit qu'il y a plein de filles qui viennent avec leur mère, avec leur tante, avec leur grande sœur. Donc, il y a vraiment du tout.
Les bringueuses, c'est intergénérationnel.
Intergénérationnel, exactement.
Edith, il a tout bon, ce mouvement ?
Oui, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment finalement les filles et les femmes s'organisent pour avoir l'égale liberté, tout simplement. C'est-à-dire, la non-mixité des filles et des femmes, c'est jamais la même que celle des hommes. Hein. Et juste, je dirais que ce qui est intéressant, c'est la fête. Parce que dans la fête, on a besoin des femmes pour les hommes. Hein. La fête sans les femmes, c'est moins drôle. Hein. C'est pas... Et donc, du coup, ça touche un sensible, quelque chose qui doit nous interroger collectivement, en fait.
Ça doit faire réfléchir les hommes. Voilà. Merci Lauriane Bema et Edith Marouet-Jules d'être venues nous expliquer ce phénomène des bringueuses. Dans un instant, on se demandera si nous vivons dans une société d'héritiers. Et on parlera du problème de financement des associations féministes avec la présidente de la Fondation des Femmes. C'est juste après Tcheg, Survivor sur Inter. Hey, Tcheg. Hey. Check it.
Mama na yo azawapi. Papa na yo azawapi. Hey, chege. Hey, chege. Mwasi na yo azawapi. Kombo na yo ezanini. Hey, chege.
Noël et toute sa bande.
Les droits de succession sont-ils trop élevés en France ou bien au contraire, faut-il plus taxer, voire abolir l'héritage? Zoom cet après-midi sur cette société d'héritiers dans laquelle la France a basculé. Je rappelle le livre de notre invité André Masson, L'héritage au XXIe siècle. On va poser la question la plus choc, la plus provoque aussi. Est-ce qu'il faut abolir l'héritage?
Oui, alors ça c'est une question qu'on pose souvent. Et c'est une mauvaise manière de prendre le problème, puisque c'est une provocation actuellement, puisque les droits de succession sont de plus en plus faibles et de plus en plus impopulaires. Pas en France exactement, mais globalement, c'est bien la tendance qu'on a. Et donc dire qu'on va abolir l'héritage...
Personne, aucun politique ne proposerait cette décision.
Ben, on la met toujours devant, mais ça ne s'est fait que dans un seul pays, la Russie, de 1918 à 1922, c'est-à-dire 6 mois après la révolution d'octobre. Et ça n'a pas marché. Je pense que dans les années 50-60, où l'héritage avait un poids plus faible, ça aurait été davantage possible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens sont accrochés à leur fortune, ça serait impossible.
Quelle question intelligente on pourrait se poser au sujet de l'héritage si on voulait faire une réforme?
Alors, si on veut faire une réforme sur l'héritage, il faut partir des urgences actuellement. Vous avez une urgence politico-idéologique qui est que la suppression des droits de succession serait aujourd'hui la réforme la plus simple, la plus populaire. En plus, elle a été expérimentée dans certains pays apparemment.
Ça se passe
sans
bien.
Dommage, et donc c'est la réforme idéale pour beaucoup de gens, et même des députés. Le seul problème qu'elle pose, vous voyez bien, c'est la baisse des recettes.
Ah bah oui, la baisse des recettes, et en ce moment, c'est quand même un peu compliqué.
Justement, Manon, il rapporte combien ces droits de succession aujourd'hui en France ?
En 2023, il rapporte 17 milliards. Entre parenthèses, on dit que la France est un pays où il y a un blocage, j'ai lu ça dans les journaux, on ne peut pas faire ce qu'on veut, alors qu'on prendrait, si on taxait les gros héritages, on laisserait les autres tranquilles. Donc la France est un pays arriéré, ancré sur la terre, avec tous les mots d'argot, vous savez, blé, oseille, fauché, etc., avoine et tout ce qu'on veut. Bon, juste un petit codicille, en pourcentage du produit intérieur brut, aujourd'hui, c'est la France qui taxe le plus. 0,74%, c'est pas beaucoup.
Mais c'est le plus.
Mais c'est le plus de tout l'OCDE.
Quentin ? Est-ce que l'héritage est aujourd'hui en France la première cause des inégalités de richesse, pour vous ?
Oui et non. Pour répondre comme un Normand. Non, dans le fait que si vous prenez les inégalités de patrimoine entre les gens qui n'ont pas hérité, ou même qui n'ont pas d'espérance d'héritage, donc qui ne sont pas concernés par le phénomène, elles peuvent être très importantes. Elle s'explique assez mal par l'âge, le diplôme, le revenu, etc. Donc, si vous voulez, les variétés de profils d'accumulation individuelle sont énormes.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une société aussi de décourager des gens qui n'ont jamais d'héritage et qui partent découragés dès le début ?
Alors, l'autre aspect, c'est que l'héritage joue un rôle clé dans le sommet de la hiérarchie des fortunes. Si vous voulez, pour le dire bêtement, les riches sont souvent des enfants de riches. Et inversement, d'ailleurs, les enfants de riches sont souvent riches. Mais ça, c'est pas nouveau, l'héritage a été toujours inégal. Ce qui est nouveau, c'est le poids de l'héritage, c'est-à-dire, si vous voulez, les flux annuels de donations et d'héritage qui ont énormément monté depuis 1980.
Et vous donnez un chiffre dans les enfants d'ouvriers ne sont que 30% à recevoir un héritage.
Il est faible.
C'est un pourcentage qui...
Mais si vous voulez, la masse des transmissions... c'est un indicateur quand même, et on est passé, mettons, donnons un chiffre, de 8,5% du revenu disponible en 1980 à 20% aujourd'hui. Donc ça cavalait beaucoup plus vite que la richesse nationale. Donc on devient, de ce point de vue-là, une société d'héritiers.
Mais on est tous soumis à des droits de succession aujourd'hui ?
Non. Vous avez en fait droit, il y a un seuil d'exemption de 100 000 enfants par parent, et de 100 000 francs,
parce que 100 000 euros, enfants,
100 000 euros par parent et par enfant. 100 000 euros, donc, d'exemption. Et surtout, c'est lorsque vous héritez de pas de vos parents, mais en ligne indirecte, que vous payez beaucoup.
Selon l'INSEE, alors les chiffres, ça date de 2018, seulement 14,6% des parents transmettraient des héritages supérieurs à 100 000 euros. Ils seraient donc soumis à cette impôt sur les
successions. Oui, à peu près. Ceux qui payent des droits, c'est 15 à 20%. 15 à 20%, pourquoi ? Parce qu'il faut tenir compte de ceux qui n'ont pas d'enfants. Et là, ils payent.
Ah oui, c'est juste.
Si vous voulez, c'est trompeur le chiffre français, bien qu'il soit faible, des recettes successorales, puisqu'en fait, actuellement, les successions en ligne indirecte, c'est-à-dire pas aux enfants, aux petits-enfants, c'est 10% du total, mais c'est plus de la moitié des recettes successorales. Donc, si vous voulez, quand il y a des réformes qui veulent dire que pour la nièce, tout ça, on va diminuer les droits à payer, on va être gentil, ça coûte cher.
Ça coûte cher, in fine. Tonton, le yacht, il est estimé à combien déjà ? Demandez Quentin à son tonton lors de leur dernière croisière au large de la Sardaigne, inquiet des éventuels frais de succession qu'il aurait payés sur un bien dépassant les 10 millions d'euros. T'inquiète, gamin, il est immatriculé au Panama, tu paieras zéro. Le rassura immédiatement son tonton, le rusé Spencer, lui, qu'on embrasse et qui nous écoute.
Oui, mais il n'existe pas.
Il est en mer.
Vous avez bien un tonton qui a un yacht. Oui, très bien. Quentin, voilà, la réalité, la vérité
c'est
est
une
enfin
barque,
révélée.
Oui, voilà.
Quentin, en attendant, l'accident bête, la noyade après un cocktail trop arrosé dans le jacuzzi, vous continuez d'arpenter les rues pour faire réagir les gens à notre thème du jour. Alors l'héritage, j'imagine que ça divise pas mal.
Je marche pas loin du métro Passy à Paris, quitte à parler d'héritage, autant aller voir ceux qui ont quelque chose à léguer, mais la rue est souvent plus surprenante qu'on l'imagine, et à l'image de ce monsieur, chemise jaune à carreaux, veste beige, des lunettes aux branches argentées, il me rappelle mon prof de maths de 5e. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom à vous ?
Ronan. Je suis animateur internet pour les seniors.
Vous avez le contact de Mathieu Noël ?
Je ne connais pas Mathieu Noël.
Mathieu Noël, lui, il pense que quand on envoie deux documents à imprimer, les feuilles vont se mélanger. Est-ce que vous pouvez lui expliquer que c'est pas possible, ça ?
Non, parce qu'il y a un ordre. Il y a un ordre d'envoi, effectivement, de l'impression. Effectivement, c'est pas possible que les deux feuilles sortent. Il peut imprimer, effectivement, tranquillement.
C'est une vraie histoire.
Alors, je n'y crois pas, Quentin. Je demande les diplômes de ce monsieur. À mon avis, les documents peuvent se croiser.
Non, c'est validé par un professionnel. Je pense qu'on ne doit plus parler de cette histoire dans l'open space. Parlons plutôt de la...
société d'héritiers. Mais un héritage, ça peut être un fardeau. Si on hérite de dettes aussi, et si... Voilà.
Vous avez hérité ?
Non, pas encore. Et il y aura probablement des charges, il y aura des impôts fonciers, voilà.
Vous voulez dire que c'est pas forcément toujours une bonne nouvelle, un héritage ?
C'est pas toujours une bonne nouvelle. Exactement, c'est pas toujours une bonne nouvelle.
Je laisse Renan et là, bim, un auditeur fan de l'émission. Comme dirait la plus modeste d'entre nous, Marie Debreuer, on ne peut plus faire de maître. Mais en plus, il me suit, évidemment.
Je suis juste curieux du mot du jour, du coup.
Ah, t'es curieux ?
Ouais, quel est-il ?
C'est quoi votre prénom ?
Hugo.
Il le veut, le voilà, je demande à Hugo de découvrir le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Société d'héritiers. Donc la ligne de départ n'est pas la même pour tout le monde. Et c'est ça qui handicape un peu la méritocratie, je pense.
T'as hérité, toi ?
J'ai hérité pour l'instant de... économiquement 20 ou 25 000 euros pour acheter un appart de ma mère. Mais sinon, par contre, j'ai hérité de bien d'autres choses, de la curiosité, de m'intéresser au monde, à ce qui se passe dans notre société, aux actualités, biberonné à France Inter... Donc voilà, c'est aussi un héritage qui est important, ça.
Je lui demande s'il se sent privilégié d'avoir acheté, par exemple, à Paris, alors qu'il a tout juste la petite trentaine, quand il compare et qu'il en parle autour de lui.
L'important, je crois que c'est d'en avoir conscience, parce qu'en fait, c'est le hasard aussi de la naissance. C'est-à-dire, on décide pas d'où on est, et on a un certain... C'est comme un jeu de cartes, on a un certain jeu de cartes entre les mains. Donc ensuite, c'est comment on s'en sort, et juste si on a un bon jeu de cartes, par hasard en fait, juste par chance d'être né au bon endroit, dans la bonne famille, bah il faut juste avoir conscience de cette chance, et après savoir ce qu'on veut en faire.
L'image du bon jeu de cartes me plaît. Est-ce qu'elle plaira à ma prochaine rencontre ? Anne-Marie, 86 ans, courbée par la vie avec son caddie à roulettes derrière elle, est-ce qu'elle pense que nous sommes dans une...
société d'héritiers ? Globalement, oui.
Pour acheter, par exemple, il vaut mieux ça ?
C'est sûr. Parce que si vous n'avez pas un démarrage important, par exemple, vous n'achetez sûrement pas à Paris.
On achète où alors ?
Oh bah, Trifouiller les oies.
Trifouiller les oies, bah non, que l'on trouve à côté.
Danger ?
Non, mais non, Trifouiller, c'est pour dire la campagne.
Vous êtes vraiment le pire, Quentin.
Ma dernière rencontre, c'est ce monsieur que je vois prêt à enfiler son casque de moto. Il a posé sur sa selle, les lunettes Aviator, la doudoune sans manches bleues, les cheveux blancs. Je m'approche de lui en disant que je travaille pour France Inter. Quelle horreur, me répond-il. Wow. Je ne suis pas susceptible. Vous avez quel âge, Olivier ?
J'ai 78 ans aujourd'hui.
Bon anniversaire.
Merci.
Qu'est-ce que vous avez entre les mains ?
J'ai une Harley Davidson, Road King, de quelques années.
Alors Olivier, dernière réponse à cette question. Vivons-nous dans une France...
société d'héritiers ? Non. C'est normal, quand on a travaillé toute sa vie, de pouvoir en transmettre une toute petite partie, celle qui n'est pas volée par l'État, à ces quelques personnes qu'on a élevées.
Alors on en vient à cette phrase de « on est avec une cuillère d'argent dans la bouche », quoi.
Mais comme on commence par en donner 50% à l'État largement, sans parler que ceux qui transmettent à leurs enfants sont ceux qui aussi payent des impôts. Conclusion, on donne beaucoup à l'État et on paye beaucoup pour ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche, comme vous le dites.
Elle est mal passée, la dernière déclaration.
Ah, visiblement, oui.
Je lui demande s'il veut transmettre un héritage, lui.
Oui, j'espère que je lèguerai un petit quelque chose, si on ne m'a pas tout pris entre-temps. En fait, c'est très extrêmement volatile. On espère qu'on pourra.
À qui vous allez, Olivier, léguer cette belle Harley ?
À personne, parce que personne dans mes enfants n'est en mesure de conduire ça, donc c'est un plaisir furtif et personnel.
Si vous cherchez un pilote, oh là moi j'ai mon permis moto.
Très bien, bravo. Bah, je sais pas si vous savez quel est le poids de ce véhicule.
Elle doit être aux alentours de 300, Noël.
350 à vide.
Oh, j'ai pas l'air comme ça, mais.
Vous êtes fort ? Bon, ouais, mais il faut avoir des grandes jambes quand même.
Que j'aime rire avec ceux qui ont de l'argent. Qu'il vienne d'un notaire, d'une histoire familiale ou d'un coup de bol, l'héritage reste un révélateur de ce qu'on transmet et de ce qu'on tait. En France, on n'est pas tous avec les mêmes cartes, le même jeu de cartes dans les mains, mais pour filer la métaphore version Monopoly, certains héritent quand même carrément de la banque.
Anne-Cécile Maillefer, présidente de la Fondation des Femmes, est avec nous pour parler de ce constat accablant. On parle beaucoup plus aujourd'hui dans les médias des violences faites aux femmes, ça c'est vrai.
Ouais,
comme ça, de loin, on se dit qu'on avance, et c'est votre travail aussi. Alors que le financement des associations d'aide aux femmes victimes de violences, elles sont en baisse. Anne-Cécile, concrètement, d'où viennent ces coupes budgétaires ? Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, les coupes budgétaires, elles viennent d'abord et avant tout des départements. Hein. En tout cas, de l'enquête qu'on a menée auprès de 148 associations, donc je parle de ces associations-là qui ont répondu à notre enquête, bien sûr. Ces associations associations nous expliquent qu'elles elles subissent des baisses et que ces baisses viennent majoritairement des départements, ensuite de certaines villes et enfin de l'État.
Et comment elles sont justifiées, ces baisses ? Il y a des arguments qui sont donnés ?
Alors, tout ce qui est le département, en fait, c'est clairement le problème, c'est la situation économique. Et ça, je vous apprends rien. On est dans une situation économique qui n'est pas simple. Et
on cherche des économies partout.
Voilà, le Premier ministre nous le rappelle. On cherche des économies partout. Et c'est vrai que, malheureusement, nous, sur les violences faites aux femmes, ce qui nous énerve un peu, c'est de voir qu'en fait, on est sur un sujet qui est soi-disant extrêmement prioritaire, sur lequel on sait qu'on a mis énormément de temps avant enfin de se décider à agir. On a agi de manière extrêmement timide. Et au moindre revirement de l'économie nationale, on voit qu'en fait, on s'en prend à ces petits budgets-là qui sont vraiment des miettes. Donc moi, je trouve ça extrêmement mesquin. C'est-à-dire qu'on va piquer en gros 100 000, 200 000 euros, ce qui n'est rien du tout à l'échelle du budget d'un département au planning familial, qui doit du coup fermer toutes ces permanences dans la Drôme de centres santé sexuelle qui est financé par le département.
Pour les femmes.
Et un impact direct pour les femmes dans ces villes, dans les territoires extrêmement isolés, ruraux, etc. Et pour rien du tout. C'est pas ça qui va sauver le département en plus.
Parce que vous parlez de petites sommes, mais du coup, cumulées, c'est une perte de quel ordre ?
Alors là, sur ces 144 associations qui ont répondu, on est sur 6,7 millions, ce qui serait beaucoup sur votre compte en banque, mais sur les comptes,
les comptes publics,
c'est rien du tout. Mais quand même, c'est 6,7 millions, on fait, si on veut en gros donner une résonance concrète, c'est environ 6 000 femmes qui pourraient être aidées, qui là ne le sont pas.
Les conséquences tangibles, concrètes sur le terrain, sont lesquelles ?
Alors, conséquences concrètes et tangibles. Dans les territoires ruraux, pour ces 144 associations à nouveau, 72% d'entre elles qui agissent dans les territoires ruraux, isolés, nous disent qu'elles ont, là, dès cet été, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme maintenant, elles ont dû fermer ou réduire les volumes horaires des permanences. Les permanences, c'est un endroit où vous pouvez aller si vous avez des questions, etc., pour votre situation personnelle, des conseils juridiques, d'un accompagnement psychologique. 72%. Donc c'est énorme, sachant que ces territoires ruraux, c'est 50% des féminicides, alors même qu'il n'y a que 30% de la population qui y vit. Donc, et ce sont ces territoires-là qui sont les plus impactés.
Anne-Cécile, il y a une donnée qui m'a interpellée dans votre rapport, et on en parlait, c'est que les zones rurales sont les plus touchées par ces baisses de financement. Or, c'est peut-être quelque part là que les permanences, en tout cas, sont le plus nécessaires.
Oui, absolument. En fait, dans les territoires ruraux, ce qui va se passer, c'est que les femmes sont particulièrement isolées pour plein de raisons différentes. Elles sont isolées géographiquement, on le voit bien. Elles sont aussi isolées parce qu'elles ont moins de capacité de pouvoir se véhiculer. Et puis, elles sont aussi isolées parce que les réseaux, en fait, personnels sont parfois jouent contre elles.
Les connaissances,
voilà,
solidarités masculines mal placées.
Exactement. Le mari peut être tout à fait très ami, ou le cousin et puis en fait, dès qu'elles vont faire un pas dehors, ça va être vu, remarqué. Ces permanences associatives qui d'ailleurs n'arrêtent pas d'innover et sont extrêmement intéressantes, justement pour faire des permanences qui sont un peu cachées. On voit pas trop que c'est une permanence associative, où il y a des minivans, des minibus, voilà, le bus par exemple, Simone et Nina qui est dans le nord. Donc elles essayent, les associations, justement, d'innover pour aller au plus près de ces personnes. Et c'est ces endroits-là dans lesquels il faudrait redoubler de financement. Et en fait, c'est là où, malheureusement, en ce moment, en tout cas, on voit qu'il y a des gros problèmes.
Et les associations qui sont présentes dans les villes, comment se porte leur budget ?
C'est pas forcément beaucoup mieux. En tout cas, c'est moins grave, certainement. Par ailleurs, dans les villes, elles sont plus nombreuses. Donc, il y a moins ce phénomène de quand une association disparaît, il n'y a plus rien. Ce que je vous disais, c'est qu'il y a des territoires dans lesquels une association disparaît. Et du coup, il faut faire 2 heures de voiture pour trouver une autre association. Donc, en ville, heureusement, c'est pas tout à fait ça. Mais néanmoins, on voit quand même sur tout le territoire que c'est plus vraiment une... C'est encore une priorité dans certaines villes, et là on voit qu'il y a quand même une corrélation avec les couleurs politiques, mais on voit qu'il y a quand même cette espèce de sentiment que finalement, bon, MeToo, ça va, ça suffit, qu'on en a déjà assez parlé.
Ça fait 10 ans.
Les femmes, c'était bien, maintenant ce serait important de s'intéresser aux hommes quand même. Enfin voilà, je ne vous sors pas le nombre de phrases hilarantes que j'entends toute la journée à ce sujet, mais on est un petit peu dans ce contexte-là, on le sent en tout cas budgétairement, que ça s'effrite.
Merci Anne-Cécile Mayfair pour soutenir la Fondation des Femmes. Je rappelle le concert que vous organisez le 19 novembre prochain à l'Adidas Arena à Paris, ou encore plus simple, fondationdesfemmes.org. À suivre, un zoom-zoom test de haute volée dédié au beauf avec Rose Lamy en guest star, un œil sur l'amnésie écologique, et Manon Mariani nous parlera du savon de Sydney Sweeney dans sa veille sanitaire. Tout ça, c'est après Enchantée Julia. Balade.
Sans retour. Baby, tu m'as... secours. Mais la route est longue, le temps m'a pris de court. Je n'ai plus le temps de crier au secours.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur la beaufitude, le face-à-face s'annonce serré dans le Zoom Zoom Test entre, d'un côté, une journaliste élevée dans une famille de mélomanes bobos parisiens, amatrice d'électro pointu, de l'autre, un ex-VRP des Cafés Richard, dont l'oreille musicale s'est formée dans les concerts de Carlos et sous les baffles du Bayocos, le nightclub légendaire d'Alençon, bien malin, celui qui pourra pronostiquer qui va l'emporter dans ce quiz spécial beauf. Jouons au Zoom Zoom Test. Un quiz en forme, je le disais, de blind test inversé cet après-midi. Alors déjà, qu'un blind test normal, vous avez du mal, alors inversé, je me doute que ça va pas être simple pour vous et que c'est pas encore aujourd'hui que vous allez taper dans l'œil du jury du prix Albert Londres. Mais je vais vous aider. Au fond, c'est simple, je vous cite des paroles de chansons, à vous de me donner le titre et l'artiste. Un bon exemple valant mieux que 10 explications, on démarre avec ce trésor inscrit au patrimoine de la chanson française, pile entre L'Aigle Noir de Barbara et Avec le Temps de Léo Ferré. Plus qu'une chanson, un manifeste. Signé Francis Vacher, Olivier Guillot et Jean-Jacques Lafont, un texte qui dit « Tout ça se serait bien terminé si nos bonnes femmes n'étaient pas rentrées. Elles ont mis le perno sous clé, elles ont gueulé plus fort que nous et on s'est fait virer. »
Mais Rine alors, j'ai aucune idée.
Non plus. Quentin... Les musclés.
Heureusement, notre invitée Rose Lamy est là. Elle va nous aider.
Mais non, je l'ai pas non plus.
Si je vous dis
c'est
que
c'est super dur.
C'est dur, découplé en plus.
C'est super simple.
Bah, allez, un autre.
Si je vous dis.
Viens boire un petit coup
à la maison licence car bien sûr.
C'est les couplets en fait qui vont faire qu'on vient là.
Évidemment, sinon c'est trop simple. Voilà. Je vous dis, viens boire un petit coup à la maison. J'imagine que, vu que c'est le titre de la chanson, ouais. Un incontournable des soirées beauf, viens boire un petit coup à la maison, est passé pas moins de 12 fois lors des 50 ans de Cyril Lacarrière, en février dernier. Une œuvre intemporelle, un pamphlet anti-bien-pensance qui vous met les poils à chaque fois et qui plus est, un clip inoubliable réunissant toutes les idoles de Quentin, Paul Prébois, Dick Rivers, Patrick Sébastien, Carlos, Moustache, Sophie Darel, Éric Chardin, Thierry Ray, Roger Zabel et même...
Philippe Laville,
oui, un point bonus pour vous, Quentin, bravo. Un point bonus donc pour l'oreille absolue de l'équipe. Attention, seconde pépite pour laquelle j'ai une tendresse toute particulière car elle réunit mes deux passions, le sexe et la pâtisserie. Le tourment
c'est
d'amour.
Nouveau, ça.
C'est vrai.
Le tourment d'amour.
Le sexe.
Oui.
Donc, Quentin, vous venez de perdre le point que vous avez gagné. Les compteurs sont remis à zéro. Le tourment d'amour est un petit gâteau qu'on peut trouver aux saintes. Avec mon tourment d'amour, chérie, tu peux tomber enceinte. Le tourment d'amour est un sympathique gâteau à base de farine et de noix de coco. Mon tourment d'amour est un méchant gâteau à base de muscles et de spermato.
Francky Vincent, non ?
Oh là
Francky
là
Vincent là. C'est un carton plein pour notre invité qui est vraiment une spécialiste.
Ah oui !
Ah ouais ?
Si, si.
Il y avait pas ça à votre anniversaire, Manon.
Alors ça, non.
Ma mère va être fière de moi, je crois.
Rose Lamy, les chansons. Hein.
Rose Lamy, mais quelle culture. Ouais. Bravo, une chanson qui procure déjà beaucoup d'émotions à entendre, mais là aussi, pour une expérience optimale, je vous recommande le clip, un plan fixe de 4 minutes durant lequel Francky fait la démonstration de son incroyable déhanché. Mais attention, top. Vous avez été bouleversé par les mots de Victor Hugo. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Il est temps de rendre hommage à d'autres vers, tout aussi poignants. Je cite. Ce soir, plus rien n'a vraiment d'importance. Ne penser qu'à la danse et à s'éclater. Se laisser aller. Et tant pis si demain...
Non.
Et tant pis si demain, j'ai un pivert sur l'épaule. Et tant pis si demain, mes jambes flageolent. On a parlé de cet auteur de génie.
Je suis trop nul. C'est dur.
On a parlé de cet auteur de génie dans l'émission.
Sébastien, Patrick Sébastien.
Oh, Patrick Sébastien, peut-être
ça sonne.
C'est chaud, on pense qu'à faire la fête. C'est chaud, personne ne nous prend la tête.
Une de ses meilleures. On ne pouvait pas décemment faire un quiz sur les ménestrels qui dérangent, qui bousculent les conventions, sans évoquer le guide suprême des beaufs, l'étoile du berger des tourneurs de serviettes, Patrick Sébastien Trublion, qui ne cache pas ses fêlures et parle avec tant de justesse et de pudeur du temps qui passe et de sa peur de la mort, comme par exemple lorsqu'il décrit son futur cercueil. Je pense qu'il y aura une bosse à la hauteur de la bite, juste pour énerver les bien-pensants. Sacré Patrick, les puristes le savent. Les puristes le savent, s'arrêter maintenant serait une insulte à un autre groupe culte qui a porté haut les couleurs de la variété française. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais à présent vous livrer les paroles d'une chanson que j'écoutais dans ma jeunesse au premier degré.
Bon, c'est bon,
il se peut même qu'à l'époque je sois allé à la FNAC acheter le CD. Attention, c'est une question qui vaut 10 points. Cet après-midi, on a... Il faut le tout là. Cet après-midi, on a coupé du bois dans la forêt. Il reste plus maintenant qu'à l'allumer. C'est que le grand air, ça fait du bien, mais ça donne des petites fins. Voilà le grand moment, enfin.
Bah c'est les musclés.
Non mais je demande plus que ça. C'est la chanson.
Laquelle? Barbecue surprise party.
Merguez party. Merguez party.
Le barbecue surprise party.
C'est la merguez party.
Merguez party.
Mais oui.
Quentin il la chante tout le temps.
C'est évidemment la merguez party comme l'a dit Quentin.
Mais toi,
parce que Rose Lamy, je suis désolé, vous perdez tous vos points d'un coup. Vous avez salit la mémoire, quelque part, des musclés.
Bon, c'est pas loin quand même, hein. C'est pas loin.
C'est pas loin, mais la bonne réponse, c'est Quentin. Ouais, bravo, Quentin, pour cette victoire, en même temps, sur un quiz, un blind test sur les beaux.
Ouais.
C'est pas si étonnant que ça. Serge Zaka, spécialiste du climat, docteur en agroclimatologie. Vous avez publié « Orage sur le climat » chez HarperCollins au début de l'année. Et vous êtes aussi très actif sur les réseaux sociaux, où vous arrivez à mettre en perspective les dégâts causés par le dérèglement climatique. Qu'est-ce que c'est déjà que cette amnésie écologique? Est-ce qu'on est tous amnésiques lorsqu'il s'agit d'environnement et de climat?
C'est assez simple à comprendre. C'est par exemple lorsqu'un élément de l'environnement va évoluer progressivement. Pour le climat, c'est la température. Pour les insectes, c'est la diversité des insectes et leur nombre. Pour les dauphins, c'est le nombre de dauphins, éventuellement les races présentes. Eh bien, si ça évolue progressivement, de génération en génération, on va ne pas savoir ce qu'il s'était passé avant. Ou même au sein même, avec le changement climatique, au sein même d'une vie humaine, on va oublier ce qu'on avait dans notre enfance.
Mais le problème, c'est que cette amnésie, on a commencé à le voir, elle est presque normale, elle est naturelle en tout cas.
Elle est tout à fait naturelle, ça fait partie du cerveau humain. Il a plutôt tendance à gérer ce qu'il se passe au quotidien que d'avoir ce qu'il se passera dans l'avenir ou même d'oublier ce qu'il y a dans le passé. Par exemple, et d'ailleurs ce sont souvent des choses qui sont utilisées par les climato-sceptiques pour profiter de l'amnésie écologique pour nous sortir de mauvaises informations. Si je vous dis que la température moyenne à Montpellier en été... normalement, dans les années 70, 80, 90, c'est de 30 à 31 degrés. À Toulouse, c'est 28 degrés. À Bordeaux, c'est 27 degrés. Et à Paris, c'est 25 degrés. En moyenne, à Paris, l'après-midi, il fait 25 degrés en juin, peut-être 26 en juillet et en août. Là, quand on a 30 degrés, ça nous paraît normal. Et quand il fait en dessous de 30 degrés, ça nous paraît frais.
Ouais.
Et parfois même, quand on se rappelle de notre enfance, on a l'impression qu'il faisait chaud aussi en été et que c'est tout à fait normal. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on s'adapte. Cinéma, jacuzzi, piscine, enfin suivant les moyens que chacun ont, forêt, etc. Bah, par contre, le chêne vert méditerranéen, l'aulne, puis le bouleau, puis la vache laitière qui a la même race depuis 40 ans, eh bien, elle ne s'adapte pas.
Comment on lutte contre ce phénomène naturel qui est l'amnésie écologique? Comment on fait pour inculquer, ou en tout cas conserver la mémoire du climat? Comment on fait pour qu'elle se transmette de génération en génération?
Alors, c'est par les chiffres et par la science. Par l'analyse, par les statistiques, par la science, en fait. Qu'on rappelle ça par les longues séries de mesures. On a des longues séries de mesures, notamment pas que en climatologie, mais aussi en écosystème. Par exemple, vous prenez les dates de floraison des cerisiers japonais et on les note depuis 812, parce que c'est une date de fête et on les note depuis 812, donc plus d'un millénaire. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on avait effectivement une espèce de moyenne autour de 10 avril où on tournait autour de ça au fil des siècles. Et puis d'un coup, là, ça fait 40 ans qu'on a gagné 16 jours ou 17 jours maintenant. Et donc, nous, en tant que trentenaire, enfin, peut-être pour moi, peut-être pas pour vous.
Merci Serge.
on a l'habitude, pour nous, c'était début avril. c'était déjà plus tôt que mes parents, oui. C'était 15 avril. Et que la jeunesse qui arrive, pour eux, ça sera normal le 20 avril. Mais ça nous fait oublier que ce stress pour les arbres, c'est un stress pour les arbres de fleurir trop tôt. Après, il y a des risques de gel qui peuvent arriver derrière. Donc, l'amnésie écologique nous amène à moins agir, en fait, en réalité, par rapport à la lutte contre le changement climatique.
En quoi c'est inquiétant et surtout, en quoi c'est une aubaine aussi, surtout pour les climato-sceptiques qui peuvent jouer de ce phénomène assez naturel pour nous faire oublier le réchauffement climatique.
Bah, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, vous allez sur Twitter, vous allez sur Facebook, vous voyez, il y a des personnes, moi j'appelle ça les piliers de comptoir de PMU, quoi, qui racontent leur vie sur les réseaux sociaux et qui vont vous dire, eh bah, écoutez, aujourd'hui il fait 18 degrés chez moi cet après-midi, j'ai mis un pull, il n'y a plus de changement climatique. Donc ils vont profiter en fait de ce court-circuitage de notre cerveau qui est fait pour le présent et pas pour le passé ni le futur, bah, pour justement faire passer de fausses informations, et ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner parce que chez certains jeunes, il faut savoir que avant les années 2000, il y avait 4 fois moins de canicules que maintenant. Hein. On a 1,37 canicules par an maintenant, donc plus d'une par an, et avant on en avait 0,39, il me semble, à quelques centièmes près, il faudra juste vérifier les chiffres. Et ben, on a 4 fois plus à 5 fois plus de canicules maintenant, c'est-à-dire que les jeunes qui sont nés dans les années 2000,
ils sont habitués.
Quand ils vont lire ces discours, bah, ils vont trouver ça normal qu'il y ait des canicules tous les étés, voire 2, voire 3 canicules comme en 2022, l'été. Et ça, c'est ça l'amnésie, c'est ça qu'il faut lutter, parce que cette jeune génération, c'est elle qui va porter les messages d'espoir par rapport au changement climatique. Et si elle considère que le changement climatique est normal, et bah, je peux vous dire que les forêts qui ont perdu nos feuilles cet été, ils ne considèrent pas que c'est normal. Et donc, ils vont profiter, les climato-sceptiques, de toucher ces jeunes qui considèrent que les canicules sont normales en été.
Serge Zaka, est-ce qu'il y a une différence ? Est-ce qu'on est égaux tous face à ce phénomène d'amnésie écologique ? Ou il y a une différence entre les urbains et les ruraux qui peut-être sont plus au contact de la nature et perçoivent mieux les changements ?
Alors, ça dépend des métiers, je dirais plutôt, parce que les agriculteurs, par exemple, eux, ils ont des registres de leurs grands-pères et pères. En fait, ils savent, les agriculteurs, c'est eux qui sont le plus concernés par cette non-amnésie écologique. Justement, eux, eh ben, ils vont avoir les de vendange, ils vont voir les registres de rendement du blé, du maïs, et donc ils vont voir les différentes évolutions. Toutes les personnes qui sont en contact avec des archives longues, les climatologues, les écologues, et ben eux, ils vont être moins concernés. Par contre, les personnes qui ne travaillent pas forcément dans la science et les archives, donc ils vont aller au quotidien, peut-être travailler dans un bureau sur l'éolien, sur le photovoltaïque, ou conduire des bateaux-mouches dans la Seine, enfin, ou être caissière, enfin, des personnes qui n'ont pas forcément de leur métier à faire des registres longs, ils vont être justement concernés par cette amnésie écologique.
Sur le papier, Cyril et Quentin étaient émoustillés, mais Manon, vous allez rapidement faire redescendre la température, car l'actrice Sydney Sweeney n'accède pas aux fantasmes de ses fans. Elle se fout de leur gueule un petit peu avec un savon.
Hello, you dirty little boys. Are you interested in my body?
Yeah. Les garçons, vous êtes intéressés par mon corps? Enfin, mon savon pour le corps? Eh bien, vous pouvez l'avoir. Ce que vous entendez, ce n'est pas une pub érotique. Elle en parodie juste les codes. On y voit l'actrice de Euphoria, Sydney Sweeney, dans son bain, faire la promotion d'une collaboration assez inédite, un savon avec la marque américaine Dr. Squash. Mais attention, pas n'importe quel savon. Un savon créé avec une goutte de son bain, spécialement à destination de la gente masculine. Sydney Sweeney se met en scène de façon assez sexy en prenant une voix de séductrice. Sur les réseaux, beaucoup ont pensé que c'était un sketch, mais pas du tout, tout est calculé. Dans le communiqué de presse du produit, elle dit « Mes fans n'arrêtent pas de me demander mon eau du bain, donc soit je les ignore, soit eh ben, j'en fais quelque chose. » L'actrice se moque des demandes très bizarres qu'elle reçoit depuis des années et elle décide donc d'en tirer profit.
C'est un beaucoup de com', quoi.
Oui, et c'est surtout un moyen pour elle de reprendre le contrôle de l'hypersexualisation dont elle fait l'objet depuis quelques années. Car Sydney Sweeney, elle s'est fait connaître dans Euphoria, une série dans laquelle elle apparaît de façon toujours très sexy, notamment dans plusieurs scènes de sexe où elle est dénudée. Sa poitrine est constamment mise en avant. Résultat, elle est devenue un objet de fantasme pour certains hommes qui se permettent des commentaires incessants sur son apparence sur les réseaux sociaux. Des montages d'elle nue sont partagés sur X, certaines de ses scènes de sexe sont coupées sur Pornhub, mon feu Pornhub, d'autres font des sondages sur la taille de sa poitrine, son corps est objectifié, commenté, sexualisé. Du coup, Sydney Sweeney a décidé d'en jouer. Avec son savon, elle veut reprendre le contrôle de ce qui se dit autour de son corps. Vous fantasmez sur moi, vous voulez être dans mon bain, eh bien, achetez mon savon. Elle retourne la situation en sa faveur en faisant même un business, c'est culotté, mais c'est une façon de dire fuck à ceux qui la harcèlent.
Et j'imagine que si vous nous en parlez, Manon, c'est que ça a dû susciter pas mal de réactions, tout ça.
Alors, évidemment, si certaines sont plutôt du même avis que moi et y voient même un acte assez féministe, ça a aussi dérangé pas mal d'autres personnes. Sur TikTok, des femmes ne comprennent pas la démarche de Sydney Sweeney. Pour elles, c'est le contraire du féminisme, car elle se met au niveau des hommes qui fantasment sur son corps. L'argument principal principale avancée et qu'elle ne peut pas se plaindre d'être autant objectifiée et de le faire elle-même. Mais si, et finalement, ce n'était pas la meilleure réponse, car au moins, eh ben, c'est elle qui choisit. Léna Mafouf avait eu une démarche similaire en début d'année. Elle s'était faite body-shamer sur les réseaux alors qu'elle dansait avec son meilleur ami en portant un body rouge. En réponse, Léna avait décidé de tourner une pub avec ce fameux body rouge et de le vendre. Comme Sydney Sweeney, elle a repris la main en transformant ses moqueries dénigrantes en véritable business.
Est-ce que vous pensez que ce savon va bien se vendre alors ?
Bah, honnêtement, je pense. En plus, c'est une collaboration limitée à 5000 exemplaires. C'est un peu bizarre, oui, mais je vous rappelle quand même que Gwyneth Paltrow et sa bougie senteur vagin. Tout le monde l'avait critiqué quand elle l'a lancée, mais ça a fait un véritable...
J'en ai 12 à la maison.
Oui, ça m'étonne pas. Ça avait fait un véritable carton. La bougie se revend aujourd'hui jusqu'à 400$ sur eBay. Ah. L'actrice voulait briser les tabous sur la sexualité féminine et j'ai envie de dire, elle a réussi son pari. Tout ça, ce sont donc de très bons coups marketing menés par des femmes qui en ont marre qu'on leur dise quoi faire, qui être et à quoi il faut ressembler.
Merci Manon. Quelle joie de retrouver mon pote métalleux préféré, quand j'y pense, mon seul pote métalleux. Bonjour Harold Barbet.
Bonjour à tous, ravi de lancer ma saison avec un petit sujet feel good. Alors, un thème typique la carriériste, j'ai envie de dire. Dégoûté de retourner bosser, il s'est dit qu'il allait foutre le cafard à tout le monde. Malgré ça, je suis quand même très content de tous vous retrouver.
La chronique d'Harold Barbet, c'est dans Zoom Zoom, juste après Georgia Smith. On écoute With You. L'amnésie, lui, il connaît bien. En tout cas, c'est ce qu'il a prétendu à sa femme pour justifier le fait de l'avoir oublié à l'aéroport. Visiblement une vraie histoire. Voici Harold Barbet.
Agnès Pannier-Runacher, Christophe Béchu, Amélie de Montchalin, Barbara Pompili. Non, il ne s'agit pas là de l'équipe de France de curling mix des JO de Paris, mais des quatre derniers ministres de l'écologie. Il y a quand même un petit rapport avec le curling, c'est que chacun a pris un petit coup de balai et n'a laissé aucune trace. J'ai fait un test la semaine dernière. J'ai interrogé 10 personnes. Aucune ne savait qui est le ministre de de l'écologie en France aujourd'hui. Autant patchy de la Starac et un vague souvenir. Mais eux, personne ne s'en rappelle. Et j'ai d'abord pensé que c'était ça, l'amnésie écologique. Mais non, l'amnésie écologique est le fait de penser que l'état environnemental inhérent au début de notre vie est l'état environnemental normal, sans tenir compte du fait qu'il était déjà détérioré avant. Un concept d'oubli de la situation de base qui peut finalement s'étendre à beaucoup d'autres sujets. Comme par exemple ce couple qui fête ses 30 ans de mariage au restaurant en tête à tête, sans s'adresser la parole, le nez sur leur portable respectif toute la soirée. Lui regarde les gifs ringards envoyés par son pote JC. Elle regarde l'horaire démarrer pour voir si elle pourra sauter du haut de la jetée demain. Eh bien, je vous l'assure, ils s'aimaient au début, ils l'ont juste oublié. Les nuits torrides à se péter le dos sur un clic-clac d'étudiants ont laissé place à un missionnaire sans passion, où lui pense à la meilleure amie de sa femme, tandis qu'elle fait sa liste de courses. La vie intime des Noëls, quoi.
Ordure.
Mais ils s'aimaient avant, ils s'aimaient. C'est tellement simple de se dire qu'on a oublié pour justifier quelque chose. C'est une excuse de mauvais élève de CM2, ça.
Pardon, madame, j'ai oublié.
Pour reconnecter avec la planète, l'expérience directe de la nature est un moyen particulièrement mis en avant afin de contrer l'amnésie écologique. Se promener, prendre le temps d'observer la biodiversité, etc. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Car en passant du temps dans la nature, on prend quand même le risque de rencontrer des gens. Et alors qu'on est sur le sujet de l'amnésie, on oublie pour le coup un facteur important dont on a tous fait l'amer constat à un moment donné dans notre vie, les gens sont des cons. Je trouve ça très optimiste de penser que c'est en se baladant en forêt que les gens vont se mettre à observer la nature. Ils aiment la nature quand il s'agit de se rincer la bite sous une gouttière à l'endroit de partir en forêt, mais quand il faut manger vegan une fois mais par semaine, il n'y a plus personne. Je pense pas qu'un tueur en série en train de démembrer le corps de sa victime dans les bois ait forcément le réflexe de s'arrêter pour contempler la nature. Bordel. Qu'est-ce que c'est beau, une coccinelle ? Les larmes aux yeux, la morvonnée. Il peut même plus utiliser un mouchoir car il porte un masque de hockey, c'est dur. Alors les climato-sceptiques disent qu'on nous ment, et je peux les comprendre. C'est vrai qu'il y a énormément de manipulation sur les réseaux sociaux. On peut faire dire ce qu'on veut à une vidéo aujourd'hui si on n'a pas le contexte. Par exemple, Harry Potter, je prends le dernier film, je garde juste le moment où Harry crame Voldemort. La vidéo, je lui donne le titre que je veux. Un adolescent à lunettes, immole par le feu, une vieille dame en peignoir atteinte du cancer. Ça marche, franchement ça marche. Mais là, on est quand même sur des faits prouvés scientifiquement. On voit le paysage se dégrader, la biodiversité s'amenuiser d'année en année. On dirait moi en 2020, constatant l'évolution de ma calvitie, mon crâne ressemblait au dos d'un mec poilu après une séance de thérapie par ventouse. Oh, parce que c'est ça qu'on veut pour notre planète. Quel est le swag de Jean Castex? Non. Donc ok, on a oublié. Mais maintenant qu'on nous a rafraîchi la mémoire, ça va être quoi l'excuse pour ne pas faire nos devoirs? Une panne de réveil?
Merci Harold Barbet, on vous retrouve mercredi dans Zoom Zoom Zen. Merci à tous les amis. À la réalisation, c'était Alicia Vulot. Rendez-vous lundi, on parlera d'un homme qui est plus qu'un homme, un phénomène. Patrick Sébastien, pas juste le saltimbanque bien sûr, mais le phénomène de société. À lundi 16h.